Alors les mots de liaison, je vous lis une liste rapidement que vous aurez hein, sur papier plus tard, mais là j'ai pas eu le temps. Vous pouvez avoir ce qui exprime l'adjonction hein, ou la disjonction, outre, en plus de, avec, et ni, aussi, également, de plus, en outre, ainsi, par ailleurs, d'ailleurs, d'une part, d'autre part, et même, voire non seulement, mais encore, ou bien, tantôt, tantôt, de même que, de même, tandis que. Ce à quoi je suis plus attentif, c'est ce de cause et de conséquence, c'est-à-dire par, en raison de, du fait de, à cause de, sous prétexte de deux, à force de, étant donné, grâce à, faute de, ou bien, car, en effet, effectivement, ou bien, comme, parce que, étant donné que, du fait que, sous prétexte que, d'autant plus que, puisque. Conséquence, au point de jusqu'à, donc aussi, c'est pourquoi, par conséquent, ainsi, alors, par suite. De sorte que, si bien que, tellement que, si que, de manière que. Ou bien l'hypothèse, en cas de, avec, à cause de, à moins de, exception faite de, sauf sinon. Ou bien encore, si selon que, excepté si, sauf si, à condition que, pourvu que, en admettant que, à supposer que, à moins que, si tant est que, soit que, au cas où. Mais enfin, vous pouvez aussi voir la traduction du but pour, afin de, en vue de, dans l'intention de peur de, ou bien pour que, afin que, de sorte que, de peur que, ou bien encore, là, ce qu'on appelle l'opposition, malgré, en dépit d'eux, mais or, au contraire, en revanche, pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, en fait, alors que, tandis que, bien que, quoique, même si. Et, pour finir, la comparaison, comme, pareillement à, de même, ainsi, pareillement également, comme, ainsi que, de même que, aussi que, autant que, plus que, moins que. Voilà, vous avez, bien sûr, comment ? Non. Alors, ils sont dans le livre de seconde, pas de chance pour vous, hein, mais vous aurez le tableau. Hein ? Seconde, page 45. Ça, vous pouvez le trouver aussi au CDI même, ou chez vous, éventuellement. Oui. Vous les avez ? Ah bon ? C'est étonnant, ça. Ah, parce que vous les aviez payés ? Ah, d'accord. Donc, c'est page 43 à 45, parce qu'il y a le détail même avant, 42. Ça commence page 42 à 45. Hein, mais le tableau est page 45. Oui. Je te dis, il y en a très peu de toute manière. Oui. C'est tout. Donc il faut rétablir les autres. Alors tu as dit l'ignorance, c'est ça, mais pour eux. Bah, l'ignorance, tu l'as aussi. Ah non, c'est pas la même, j'ai pas le même texte. J'ai pas le même texte. Oui. C'est... C'est complément du nom, hein, c'est pas... Normalement, ça on introduit un complément du nom, il n'y a pas de lien logique. Donc, mais pas donc. Hein? Donc, mais pas donc. Il y a trois absents, normalement. Ça serait qui? Et le troisième alors, Marie-Claire Carbonel, Gaëtan Bruyère et puis de Luther. Tu es avec un seul thé. C'est dans quelle phrase là? Ligne. Moi les autres non plus. Si c'est en plus quoi. C'est en plus un argument supplémentaire, oui. C'est ce qu'on appelle l'adjonction. C'est pas donné là, mais voilà. C'est bon. Ni moi, ni les autres. Ouais. Bien, Alexia Ortigosa, est-ce qu'elle a porté de l'argent? Non. Olivier Requena?
Non.
Où est-ce qu'il est, Olivier Requena? Pour le premier. T'as donné, t'as payé et tu as pris le livre. Oui, je ne l'ai pas noté. Hein. Et Kevin Rougemont? Il n'a pas. Et Mathieu Thoras? T'as ton argent? Voilà, d'accord. Ça, je le sais, mais en plus, c'est un escroc, hein, donc...
Comment ça se fait qu'il manque? Ah, il est là.
Alors, sur votre agenda, pour demain, je vous avais déjà donné des pages du manuel. Alors voir page 242 à 249. Non, non, c'est ce que je donne aujourd'hui, ça. Hein. Donc, chapitre 15, l'écriture épistolaire, page 242-249. Voilà.
Ça sera demain. On l'aura demain.
Vous avez intérêt à le voir d'ici demain, oui.
Il nous reste une question.
Théâtre. Bon, il nous restait une question sur les caprices de Marianne. Qui? Normalement non, je crois pas. Hein? Bon. Donc on termine la question 5 sur... On termine la question 5 sur l'intrigue. Donc on avait remarqué hein, qu'il y avait à la fois des éléments qui pouvaient être des éléments, disons, du drame, sans dire des éléments tragiques, c'est-à-dire la jalousie, et puis des éléments comiques dont, pour lesquels on n'avait peut-être pas relevé les expressions proprement du vocabulaire comique. Alors, les expressions... Oui. Comment ? J'en instruirai mon mari, ma foi, c'est pas spécialement du vocabulaire comique. Hein? D'accord ? Alors, qui ne font pas partie donc du vocabulaire, disons de la tragédie, mais qui pourrait très bien faire partie du vocabulaire du drame, on en reparle juste après. Vous avez l'expression. Voilà, une odeur d'amande, vous avez juste avant impudente guitare, et puis vous avez après, il pleut des guitares et des entremetteuses. Là on est plutôt dans le vocabulaire de la comédie que dans le vocabulaire de la tragédie. De toute manière, personnellement, je ne sentais pas à aucun moment l'idée d'une tragédie, même si ça se termine tragiquement. C'est pas pour ça que c'est une tragédie. Néanmoins, Musset intitule ça comédie, en principe, hein, une des définitions de la comédie, en dehors du fait qu'on doit y rire, c'est une comédie se termine en principe par un mariage. Ce qui n'est pas vrai, par exemple, pour le Misanthrope de Molière, ça ne se termine pas par un mariage, mais par une séparation. Pour Don Juan de Molière, ça se termine par la mort de Don Juan. Donc voilà une comédie qui se termine bien tragiquement. Hein. Mais sinon, bon, surtout si on pense aux comédies du 18e, hein, puisque là on est au 19e, on n'est peut-être pas tout près du siècle classique. Hein. Donc si on pense à Marivaux, par exemple, effectivement, ces comédies se terminent bien en principe. Hein, et si possible par un, quelquefois même par deux mariages. C'est-à-dire qu'on marie les maîtres et on marie les serviteurs. Hein, voilà. À la fin de l'aventure. Bien. Donc on n'est pas dans la tragédie. C'est intitulé comédie. Néanmoins, on va le voir en résumant la pièce. Cette pièce a, ma foi, tout à fait l'air d'un drame. Hein? Néanmoins, que on peut aussi interpréter le terme comédie du début, non pas comme la séparation comédie-tragédie du XVIIe siècle, mais comme la comédie française, c'est-à-dire l'endroit où on joue du théâtre. Hein, donc comédie n'aurait pas le sens de pièce rigolote, hein, mais comédie aurait le sens de qui est joué par des comédiens, c'est-à-dire, voilà. Hein, et le comédien, vous savez que ça a un sens large et que le comédien peut être amené à jouer aussi bien des tragédies que des comédies que des drames. Donc si on veut qualifier le genre, il ne faut pas oublier de rappeler que Musset l'a appelé comédie et dire que, ma foi, ça a plutôt, vu le dénouement, ça a plutôt l'air d'un drame. Donc on va revenir sur le résumé de la pièce de façon à ne pas commenter un extrait sans savoir de quoi il s'agit. Donc on rappelle... voilà, on rappelle que cette pièce, Les Caprices de Marianne, a été jouée, non, a été jouée, non, a été publiée le 15 mai 1833, après l'échec d'une autre pièce de théâtre, après l'échec d'une autre pièce de théâtre de Musset, l'échec de La Nuit Vénitienne. Hein, Musset fait jouer précédemment, le 1er décembre 1830, c'est-à-dire juste après ce qu'on a appelé la bataille d'Hernani. On va rappeler rapidement de quoi il s'agit. Le 1er décembre 1830, Musset fait jouer La Nuit Vénitienne et c'est un échec. Bon, quelle sorte de pièce de théâtre? C'est un drame, hein, d'accord. Qu'est-ce que c'est que la bataille d'Hernani? C'est la représentation d'une pièce de théâtre de Victor Hugo qui s'intitule Hernani, qui se déroule en Espagne. Cette représentation a lieu le 25 février 1830, hein, c'est-à-dire au début de l'année des Caprices de Marianne. Alors, 25 février 1830, la bataille d'Hernani, c'est-à-dire que à la première représentation d'Hernani, viennent assister un certain nombre de conservateurs du théâtre, hein, c'est-à-dire de néoclassiques, si vous voulez, qui viennent casser du comédien. Hein, ils sont là pour balancer des, tomates, mais Victor Hugo a fait venir ses copains, parmi lesquels, entre autres, Théophile Gautier, et il y a une espèce de pugilat entre les anciens et les modernes. Les modernes, c'est les romantiques, c'est-à-dire les copains de Hugo. Les anciens, c'est les autres. Et les anciens, ben, se font chahuter, commencent à chahuter et se font chahuter eux-mêmes. On leur voir les mises en scène qu'on en a fait à la télévision, hein, c'est-à-dire on leur pique les perruques, etc. Et finalement, la bataille semble gagnée pour Victor Hugo. Néanmoins, à la fin de l'année, donc, Musset, qui essaie d'aller dans le même sens, rate sa Nuit Vénitienne, il est vexé à mort, et il décide de plus écrire pour la scène. Néanmoins, il veut continuer à écrire du théâtre, et il va écrire, trois ans après, donc, publié le 15 mai, on a dit 1833, Les Caprices de Marianne. C'est publié d'abord dans la Revue des Deux Mondes. Alors les conditions de la publication au 19e siècle, vous le savez. Vous savez qu'au 19e siècle, il y a la révolution industrielle, qu'on perfectionne entre autres l'imprimerie, que ça permet le développement des journaux, du journalisme, que dans les journaux, on publie un certain nombre d'œuvres en roman feuilleton. Par exemple, Madame Bovary a commencé par paraître en feuilleton, etc. Les œuvres de Dumas ont commencé par paraître en feuilleton, c'est-à-dire en épisode dans les journaux. Comme vous avez eu juste là pour la Poisson, hein, c'est-à-dire pour Madame de... vous n'avez pas regardé là, Louis XV, sa maîtresse s'appelait comment? La marquise de Pompadour. Voilà. Hein, voilà. Vous n'avez pas regardé ça, vous avez perdu quelque chose. Hein, bon. Comédien et comédienne. Pour les filles, le comédien. Pour les filles, pour les messieurs, la comédienne. Là, vous avez raté un truc. Bon. Peut-être de ma faute, j'aurais dû vous le dire. Mais c'est plutôt le rôle du prof d'histoire que mon rôle personnel. Hein. Vous avez qui en histoire? Madame? D'accord. Alors, publié donc dans une revue, dans la Revue des Deux Mondes, puis dans le tome 1, d'un recueil de comédies qui s'intitule « Spectacle dans un fauteuil » en 1834. J'ai déjà dit « Spectacle dans un fauteuil », ça ne veut pas dire dans un fauteuil de théâtre, ça veut dire dans un fauteuil chez soi. Hein, ce sont donc des pièces à lire, on l'a déjà dit. Et la première représentation n'aura lieu qu'en 1851, vous voyez presque une vingtaine d'années plus tard, et ça sera représenté justement comme à la Comédie Française. Donc première représentation des Caprices de Marianne à la Comédie Française. On revient sur la liste des personnages. Alors les personnages, vous avez Claudio qui est le juge, Tibia qui est son valet, drôle de nom, n'est-ce pas? Bon, Marianne, sa femme. C'est peut-être bien la vie de Marianne ou Marianne s'est écrit avec un seul N, il faudrait voir. Ensuite, vous avez Coelho. Ben, Coelho, c'est l'amoureux transi. Hein. Et il y a aussi Hermia, H-E-R-M-I-A, la mère de Coelho. Hein. Alors, oui, tu peux le prononcer Célio si tu veux. Hein. Mais ça s'écrit Coelho. Hein, d'accord. Bon. Alors, Hermia, sa mère, H-E-R-M-I-A, et Malvolio, M-A-L-V-O-L-I-O, l'intendant d'Hermia. Vous avez le personnage que vous avez dans la première scène, qui est Ciuta, qui n'est pas un valet, mais qui est une vieille femme, c'est une erreur de votre bouquin, qui sera corrigé aux prochaines impressions. Hein, voilà. Alors, Ciuta, vieille femme, et la scène, ça se déroule à quel endroit? Vous vous rappelez? Ça se déroule à Naples. Hein, c'est-à-dire dans le sud de l'Italie, si je ne me trompe pas. Naples a un statut particulier. Hein, disons que c'est un peu comme... Non, j'allais dire la Catalogne peut-être pas, mais il y a un parler napolitain particulier. Hein, voilà. Que l'on parle en particulier dans la Commedia dell'arte. Hein, la Commedia dell'arte, vous en avez entendu parler, la comédie italienne. Eh bien, il n'est pas rare que les dialogues de Commedia dell'arte se fassent en napolitain aussi bien qu'en italien. Vous avez... qu'est-ce qu'il y a de dire? Bon, on est dans le récit maintenant. Ce que vous avez vu, Marianne, qui est dévote, puisqu'elle a un livre de messe à la main, repousse la proposition qui lui est faite par la vieille Ciuta. Hein, Ciuta, ça n'est pas dans la liste des personnages, mais son rôle est un rôle d'entremetteuse, c'est-à-dire qu'elle va s'entremettre pour... soit pour faire un mariage, mais dans ce cas-là on dirait une marieuse, hein, soit pour arranger une affaire de cœur entre deux personnes, que ça soit honnête ou que ça soit malhonnête. Néanmoins, dans le terme entremetteuse, le terme d'entremetteuse est péjoratif. Hein. Elle annonce qu'elle va prévenir son mari. Nous apprenons par là qu'elle est mariée. Si elle dit « je vais prévenir mon mari », elle nous prévient qu'elle est mariée. Ciuta, elle, nous annonce l'arrivée de Claudio, le mari. Et c'est elle qui nous a annoncé l'argument de la pièce. Un jeune homme aime une femme mariée. C'est donc, en principe, le schéma habituel français, y compris des romans, c'est-à-dire l'amour impossible. Hein, Claudio annonce l'autre élément de l'intrigue, qui est celui de la vengeance. Hein. Dans les deux cas, l'amour, que ce soit l'amour impossible ou la vengeance, on est du côté de l'annonce d'un drame. Néanmoins, « À mon avis, non. À mon avis, non. Hein, la satire, si tu veux qu'on interrompe 30 secondes sur la satire, donc on disait, il était en train de me parler de la satire. La satire, c'est corriger un défaut social, hein, ou une attitude politique, etc. Quel défaut social tu vois là? La jalousie. Bon, peut-être. Hein. Alors l'aspect satirique sur le caractère du jaloux. Oui, ça je veux bien. Hein, c'est-à-dire, on descend le jaloux. Oui. Donc satire de caractère contre le jaloux, Claudio. D'accord. Hein, d'accord. Alors il annonce l'autre élément, celui de la vengeance. Et par contre, l'élément comique, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il soupçonne injustement sa femme. Alors c'est un élément satirique également, mais le comique est fréquemment lié à la satire. Hein, bon. Alors, à partir de là, Claudio, soupçonnant injustement sa femme, devient fautif, il mérite une punition et il va être puni. Hein? Alors, action, Claudio envoie Tibia chercher un spadassin, ce qui a été dit, hein? Ça veut dire qu'il y a du meurtre et du drame dans l'air. On annonce, d'une certaine façon, le drame. Alors, Claudio emploie des hyperboles comiques, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une odeur d'amant, il pleut des guitares. Réponse de Tibia, fille, votre femme n'a pas d'amant. Hein? Et puis, alors la suite de la scène. Hein, rencontre entre Octave, cette fois-ci qu'on a l'ami, hein, et Coelho. Discussion entre Octave et Coelho. Coelho qui est triste en quelque sorte, et Octave lui dit, est-ce que tu n'as pas honte en plein carnaval, hein? Donc dans la circonstance, on est au moment du carnaval. Quelle petite importance. Et bien vous savez que le carnaval, en particulier au Brésil, c'est les déguisements, mais ça donne lieu à des règlements de compte. Puisqu'on est masqué, on peut aller assassiner qui on veut, et tous les ans, pendant le carnaval du Brésil, il y a des assassinats, parce qu'on en profite pour régler ses comptes. Alors, jeu de comédie entre Coelho et Octave, c'est-à-dire réplique. Coelho dit que tu es heureux d'être fou, et Octave lui réplique que tu es fou de ne pas être heureux. Hein, vous voyez le jeu sur les mots, hein, sur le comique de mots et d'expressions, en retournant la phrase de l'adversaire. Alors, question d'Octave. Qui ne connaît pas Marianne au départ, qui est cette Marianne, puisqu'il va demander pourquoi il est malheureux. Ben, je suis amoureux d'une certaine Marianne. Est-ce que ça ne serait pas ma cousine, hein? Donc, Octave va se découvrir un lien de famille avec Marianne. Et il demande, Octave, innocemment, au départ en tout cas, confie-moi tes intérêts, Coelho, c'est-à-dire, t'en fais pas, je vais la draguer à ta place, puisque tu n'oses pas le faire. Hein? Alors, petite remarque aussi de Coelho, il nous dit que Marianne sort du couvent. Moi, je dirais que là, une petite idée intéressante, une fille qui sort du couvent, il y a une petite idée de sacrilège, voilà. Hein, c'est une âme innocente. Hein, donc, c'est intéressant d'aller la pervertir d'une certaine manière. Hein, il y a un peu cette idée-là, je pense. Rappelons-nous qu'Emma Bovary, dans Madame Bovary, sort également du couvent quand elle rencontre Charles. Hein, et vous voyez ce qu'elle fait après. Hein. Donc, les filles du couvent, ça va, elles ne sont pas forcément si calmes que ça. Hein. Bon. Néanmoins, elle aime son mari. Hein? Elle aime son mari, elle est religieuse, donc double impossibilité théoriquement pour Coelho. Il le voit de cette manière. Alors, à quoi ça sert qu'Octave soit parent? Eh bien, ça va lui servir à rentrer dans la maison. Hein? puisqu'il est de la famille, il va pouvoir avoir ses entrées dans la maison de Marianne. Hein, parce que vous verrez le metteur en scène, si vous regardez sur le site les extraits, les petits extraits des commentaires sur la vie de Marianne, vous verrez que le metteur en scène insiste beaucoup sur l'idée de la grille de séparation d'entrée de la maison. Hein, le problème, en quelque sorte, c'est de pénétrer dans la maison, quoi, c'est de franchir la grille. Eh bien, Octave, lui, il a un laissez-passer qui est « je suis de la famille hein. ». En ta qualité de parent, dit Coelho, Célio s'y préfère, lui, hein, il préfère Célio. Bon, tu dois être reçu dans la maison. Mais Célio, Coelho, n'a pas de trip, en quelque sorte. Il nous dit, c'est un petit modèle de certains amoureux romantiques. Hein, c'est-à-dire, voilà, ils ont un côté, j'ose pas dire féminin, ils ont un côté, voilà, ils manquent de, je ne dirais pas de quoi ils manquent, mais bon, ils en manquent, hein, en tout cas. Alors, ce qu'il nous dit, lui, comme une demoiselle, 20 fois j'ai senti mes genoux fléchir en approchant d'elle. Il va s'évanouir, quoi, on a presque l'impression. Quand il s'approche de Marianne, il va s'évanouir. Et il nous dit, pour vous confirmer sur le personnage, j'ai été forcé de lui envoyer la vieille Ciuta. Hein? Et puis un côté héros romantique aussi de Coelho, qui nous dit, la réalité n'est qu'une ombre. Hein? Et il ajoute aussi, appelle imagination ou folie, ce qui la divinise. Et Octave, lui qui est très terre à terre, au contraire, va lui dire, ben, t'arrives pas avec celle-là, si t'en aimais une autre, ce serait peut-être plus simple. Hein? Et Coelho, plantant son personnage romantique, nous dit, ou je réussirai, ou je me tuerai. Hein? Donc dans l'image du héros romantique que vous avez peut-être vu l'an dernier, ou sinon, il y a l'idée du suicide. Les souffrances du jeune Werther, ça se termine par un suicide. À tel point que, alors, suicide exemplaire, à tel point qu'il y a eu toute une partie des lecteurs de Werther en Allemagne qui se sont suicidés. Ce que ne cherchait pas l'auteur. Hein, ce n'était pas le projet de Goethe de déclencher en Allemagne une vague de suicides. Je parle des souffrances du jeune Werther qui est le modèle du héros romantique. En faisant très attention que l'auteur Goethe n'est pas un auteur romantique, c'est un auteur classique allemand, mais son œuvre, son héros, lui, est tout à fait romantique. Hein? Voilà. Goethe avait des mots très durs vis-à-vis du romantisme. Il disait que c'était une espèce de maladie de l'esprit. Voilà. Hein? Donc, bon, il n'était pas de ce côté-là. Et il y a une espèce de... Alors, Coelho, il y a une espèce de peur à un moment. Il dit, à propos de Marianne, non, ne lui parle pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que tu vas me tromper. Hein, il y a un pressentiment de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il risque de prendre sa place, oui. Hein? Et Octave, bien entendu, je te jure sur mon honneur que je serai sage, etc. Point de suspension. Et la première fois qu'Octave va voir Marianne, qu'est-ce qu'il va dire? Ma foi, elle a de beaux yeux. Hein, ce qui préfigure que peut-être il va se sentir attiré par elle. D'un autre côté, vous avez Hermia, donc la mère de Célio, qui raconte ce qui est arrivé à son père, et on voit que l'aventure qui est arrivée au père d'Hermia, c'est déjà le même type d'aventure qui va arriver à Célio. Donc ça s'est annoncé en quelque sorte la suite. Hein. Il est arrivé au père Termia la même chose. Alors, petite citation de Marianne pour vous montrer l'évolution du personnage par rapport à ce que vous voyez à la première scène. Hein. Mais alors, ce qu'il y a certainement dans ce qu'elle dit, il y a de l'ironie quand même. Hein. Il y a de l'ironie, mais ce qu'elle va dire des femmes, là, c'est qu'est-ce qu'une femme, non pas pour moi, mais qu'est-ce qu'une femme pour les hommes, hein. Alors, comment elle voit le regard des hommes, voilà ce qu'elle écrit. Monsieur Dulcet, vous perdez votre temps ici. Tu te ferais mieux d'aller planter des radis. Qu'est-ce après tout qu'une femme? Réponse de Marianne. On dit bien qu'il n'est pas la sienne. Hein. L'occupation d'un moment, une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée qu'on porte à ses lèvres. Vous savez que Musset écrira une autre pièce qui s'intitule La coupe et les lèvres. Hein. Bon. Renferme une goutte de rosée qu'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule, à la russe. Une femme, c'est une partie de plaisir. Voilà ce qu'elle sent qu'elle est par rapport au. Hein, voilà.
Elle sent ça aussi par rapport à son mari.
Comment ?
Elle sent ça aussi par rapport à son mari.
Non, elle le pense par rapport aux amoureux. L'occupation d'un moment par rapport à son mari, ce n'est pas possible. Hein, non. Qu'est-ce que l'amour ? Que l'amour passion, c'est pas l'amour conjugal. Hein, c'est pas l'amour conjugal. Bien, réflexion également d'Octave à Célio. Lui dit un moment, tu as l'air d'aller te noyer, l'idée du suicide qui revient une nouvelle fois. Alors Marianne, à cause de l'attitude de son mari, hein, est mise hors d'elle à cause des soupçons et des menaces de Claudio, et réaction, elle le dit à Octave, je veux prendre un amant, Octave. Ça commence à devenir intéressant. Hein? Alors, comment il décrit Octave les relations entre Marianne et son mari, hein? Voilà ce qu'il dit. Vous si belle, si jeune, si pure encore, livrée à un vieillard, donc il y a un écart d'âge, hein, entre Claudio et Marianne, livrée à un vieillard qui n'a plus de sens. Alors plus de sens, c'est pas ce que ça veut dire. Oui. Oui. En plus de sens, ça peut vouloir dire fou, qui n'a plus de tête, mais enfin là c'est plus de corps peut-être, certainement, hein, qui n'a plus de sang peut-être aussi, hein, qui ne peut pas lui apporter de plaisir. Moi je pense qu'il y a ça. Et qui n'a jamais eu de cœur. Hein, c'est-à-dire qu'il ne sait pas aimer. Et Marianne, oui, ça va venir. Oui, il faut qu'on termine à l'heure, c'est ça, tu as raison. Et Marianne, face à Octave, qui s'est mis à genoux en face d'elle, lui dit, relevez-vous Octave, en vérité, si quelqu'un entrait ici, ne croirait-on pas à vous entendre que c'est pour vous que vous plaidez, hein. C'est-à-dire que dans la plaidoirie d'Octave pour Célio, elle sent que, où elle veut, hein, où elle veut, et elle lui dit carrément, Célio me déplaît, je ne veux pas de lui. Donc c'est posé, je ne veux pas de toi. Alors arrive, on approche du dénouement. Hein. Elle apprend que son mari a payé un spadassin, ce qu'on sait depuis le début, et elle écrit une lettre. Elle écrit une lettre qui est destinée à Octave. Elle attend Octave. D'accord ? Elle attend Octave. Donc elle écrit une lettre. Ne venez pas ce soir, mon mari a entouré la maison d'assassins. Et Octave, lui, a décidé d'envoyer Célio, hein, puisqu'elle attend un amoureux. En réalité, elle attend bien Octave. Mais Octave, fidèle à son premier serment, il décide, j'envoie Célio. Et Marianne, quand elle voit arriver Célio, elle ne l'a pas vu, elle lui dit, fuyez Octave. Donc Célio comprend tout de suite que c'est pas lui qui est attendu, que c'est Octave qui est attendu. Donc il est mort dans son âme en quelque sorte. Hein. Et en plus, il croit qu'Octave était au courant du traquenard et qu'il l'a envoyé pour qu'il se fasse tuer. Vous voyez, double trahison dans l'idée de Célio. Double trahison. Hein, donc, à la suite de ça, Célio, il va se laisser assassiner, puisque dit, j'étais trahi doublement par mon ami. Hein, et puis, l'amour, j'ai aucun espoir.
En fait, c'était parce que allait Célio.
Voilà, mais il comprend la situation. Alors, c'est l'aspect vraiment... S'il y a un aspect tragique, c'est ça. Hein, le tragique, c'est... j'avais tout pour être heureux, entre guillemets, quand même, parce qu'il n'est pas aimé de Marianne. Mais voilà, il y a une idée de fatalité, quand même, derrière. Donc, une idée de tragédie. Commentaire d'Octave à propos de Célio. On l'avait vu paraître tout à l'heure. Dans la définition du héros romantique, même chose. Il préférait ses illusions à la réalité. Hein ? Donc le héros romantique, il y a un peu de ça. Hein, préférait ses rêves, en quelque sorte, le rêve romantique, hein, préférait ses illusions à la réalité. Oui. Et alors, le mot de la fin de la pièce, que fait Marianne ? Ben elle dit Octave, c'est bon, viens. Réponse d'Octave. Je ne vous aime pas, Marianne. C'était Célio qui vous aimait. Hein, côté encore tragique. Non, t'as raté ton coup, Marianne. C'était l'autre qui t'aimait, c'était pas moi. Hein. Voilà, donc il y a de quoi faire sortir un peu les mouchoirs, en tout cas, de quoi émouvoir le spectateur. Hein. Sur l'idée d'un gâchis, en quelque sorte. Hein. Sur l'idée d'un gâchis. Mais... Bon, puis elle a gâché son honnêteté en même temps, d'une certaine façon, puisqu'elle s'est laissée embarquer dans cette histoire. Hein. Ah, est-ce qu'il y a une suite? Vous l'écrirez la suite alors. Écrivez la suite.
Marianne, après, elle va être son mari ou...
Bah bien sûr. Son mari. Ah oui, ça va être compliqué quand même, parce que il a fait tuer celui qui n'était pas tout à fait son amant. Là, ça va être dur. Là tu poses un problème de récit et de littérature. Hein. Est-ce que l'auteur... Alors ce qu'on appelle l'épilogue, en quelque sorte, au 19e siècle et au début du 20e peut-être, bah, je dirais que c'est assez réservé à la littérature pour enfants. Hein, dans lequel on te raconte ce qui se passe après la fin. Hein, c'est pour que tu saches tout. De plus en plus, on va être tenté par le cut. Hein, c'est-à-dire, on coupe de plus en plus tôt. Là, on coupe quand même sur un dénouement, hein, sur quelque chose de grave, de fort. Hein, si on raconte la suite, ça ne sera plus assez fort. Mais c'est sûr que par la suite, on va couper, peut-être pas au théâtre, mais au cinéma encore plus tôt. Alors, si tu regardes un homme et une femme de Lelouch, c'est quoi? C'est l'histoire d'une rencontre, on prend un train, on rencontre une femme, tac, et ça se retermine sur le départ d'un train. Ces deux destins qui se sont croisés, on a pris ça, ils se rencontrent, de la rencontre, jusqu'au moment où c'est fini la rencontre, et puis ce qu'ils deviennent après, ce qu'ils étaient avant, voilà, c'est ce qu'on appelle une tranche de vie. Hein. On va de plus en plus, on est très souvent là-dedans. Hein. Bon. Alors, c'est vrai, on peut se poser la question sur qu'est-ce qui intéresse Musset là-dedans, hein, en quoi, quel est le projet, pourquoi montrer ça aux spectateurs. Moi, je pense que, mais c'est vrai, ça sera vrai pour l'ensemble du théâtre, hein, c'est l'émotion. Hein. Le théâtre, c'est un lieu d'émotion, et ce qui est cherché, c'est pas expliquer un destin en entier, c'est pas raconter un destin, c'est émouvoir sur le moment de la représentation le public. Hein, et si possible, que ces émotions, que ça soit tendresse ou violence, que ça soit puissant en quelque sorte. Hein.
À la différence avec un film, c'est le théâtre, 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 c'est le théâtre.
C'est-à-dire, tu as une émotion sur la durée de la représentation. Moi, je pensais au tour de manège, tu vois. Tu montes dans le manège, tu as des émotions, après tu descends, bon, tu as le souvenir, mais effectivement, ça ne va pas t'accompagner comme un roman. C'est-à-dire que le roman, il va t'accompagner dans la vie parce que, voilà, ils font partie, les personnages font un peu partie de ta famille. Hein, tu les... Voilà, c'est ça, tu es... Mais il y a quand même des pièces qui te marquent, ou des personnages de pièces. Voilà, mais Roméo, Juliette, tu sais, tous ceux qui sont devenus mythiques, bon, ils ont quand même ils ont une présence permanente dans la vie. Hein, Don Juan, il y a une présence permanente, mais en tant que mythe, pas comme quelqu'un de la famille, mais en tant que mythe. Tartuffe, il a, Arpagon, il a, etc. Voilà, c'est à peu près bon, là.